Et une nouvelle fois, nous avons le plaisir sur Fréquence Mistral d'être présents aux nuits photographiques de Pierre Vert. Stéphane Kosman, président des nuits photographiques, c'est déjà la 17e édition.
Déjà. On a un petit peu échangé avec François-Xavier, cofondateur des nuits. On se demande si on va durer encore un peu. On veut au moins aller jusqu'aux 20 ans.
C'est une histoire d'énergie ?
Bon, c'est une histoire qu'à un moment, il faut passer la main. Donc on a bien vu que Marie et Nicolas sont là, l'équipe est plus jeune. Donc à un moment, il va falloir qu'ils prennent les rênes, parce que nous, on deviendra les papis d'honneur, les présidents d'honneur. On va trouver une formule.
François-Xavier Emery, vous êtes directeur artistique des Nuits Photos. Vous êtes d'accord avec ça ? Vous allez passer la main ?
Ah ouais, ça c'est vraiment, ça serait superbe de faire ça, parce que c'est un gros travail et il faut avoir beaucoup d'énergie. Et plus on vieillit, cette énergie commence un petit peu à faiblir parfois, notamment au niveau de la mémoire, et c'est terrible.
Oui, parce qu'il faut le rappeler, un festival ne se fait pas tout seul. Il faut plusieurs mois de travail, presque une année, non ? Entre la programmation, les décisions, les votes.
Bah, disons que la préparation de ce festival démarre en décembre, début décembre, avec l'appel à candidature. Et ça s'égrène jusqu'à maintenant. Et le gros du festival, la préparation du festival, c'est à partir du mois d'avril. Là où c'est vraiment, on est quasiment, toute l'équipe est à 100% pour le festival.
Et pour la sélection même des artistes, vous avez 250 dossiers, c'est ça environ, chaque année ?
Voilà, cette année, on a reçu à peu près 250, 247 pour être plus précis. Et puis, on en a retenu 25 sur ces 247.
Alors, quels sont les critères ?
On est une équipe, hein, au niveau du... Donc, chacun a sa manière un peu de percevoir les choses et donc de proposer, chacun coche, il dit oui, non, pas du tout. Et puis la sélection se fait un petit peu comme ça. Après, bien sûr, on a des discussions pour valider, parce que souvent on en choisit beaucoup plus que 25, mais comme on est limité à 25, bah, il faut resserrer un peu les choses. Mais, donc on lance l'appel en candidature à partir du mois de décembre. Fin février, c'est la clôture de cet appel à candidature. Et donc à partir du mois de mars, pendant jusqu'à mi-avril, on travaille sur cette sélection.
Qui participe à ce jury ?
On est 5, donc il y a Marie Corr, il y a Frédéric Babin, qui n'est pas là cette année, mais qui est depuis plusieurs années dans le comité. Il y a Nicolas Espagnol, qui est ici.
Est présent.
Il y a Nicolas Klein aussi, qui fait partie de l'équipe. Et Stéphane, qui a aussi tant un regard sur ce qui se passe, mais ce qui est bien, parce que ça permet de...
Il y a aussi Fatima Mazmoud,
oui,
qui n'est pas avec nous cette année, mais qui intervient aussi. Je suis juste en copie. Malheureusement, cette année, pour des raisons personnelles, je n'ai vraiment pas du tout participé à la sélection. Mais François-Xavier aime bien que je sois en copie. Je voudrais juste souligner le fait que la plateforme a été réalisée par Nicolas Klein et que ça a été un énorme boulot. Puisqu'on a changé de formule et c'était très important et je crois que ça a été bien perçu.
Oui, parce qu'on travaille sur une plateforme, parce qu'on est tous à distance, on n'est pas rassemblés tous sur Pierre Vert, et ce qui permet de pouvoir échanger facilement et chacun voir à son rythme les propositions qui sont faites.
Alors vous avez parlé de Marie Corr, qui est commissaire des expositions, on peut dire ça ?
C'est ça, elle devrait venir, mais Marie Corr, effectivement, commissaire des expositions, c'est elle qui fait tout ce travail de mise en espace de l'exposition, du choix aussi des photographes, et puis de Natacha de Mailleux, qui est quelqu'un qui était extérieur, qui n'a pas répondu à l'appel à candidature, mais qu'elle a voulu intégrer dans le principe de la thématique dont elle vous parlera tout à l'heure.
Peut-être l'arrivée de Marie Corr. Les tirages qui sont présents, que l'on peut admirer, ce sont des tirages qui sont amenés par les artistes ou certains sont pris en charge par les nuits ?
Alors on a les deux formules. Donc nous, comme on fonctionne avec un budget qui n'est quand même pas très très élevé, dans la mesure du possible, on essaye de produire les images parce que les photographes n'ont pas forcément tous les tirages avec eux. Et parfois aussi, il faut adapter les tirages au contexte des espaces d'exposition qui sont pas forcément, parce qu'on utilise des lieux qui sont pas dédiés forcément à des expositions, donc il faut toujours réinventer ce que fait Marie Corr. Donc ça nécessite parfois des tirages particuliers, et c'est comme ça que nous on est dans la production. Mais il y a cette possibilité effectivement qu'il y ait des photographes qui sont pourvus de leur tirage, comme on a deux cas au golf et à la Black.
Il n'y a pas simplement des photos exposées, il y a aussi des films, des vidéos, des projections. Et j'en viens à vous, Nicolas L'Espagnol-Rizzi, vous êtes responsable des montages de ces projections. De quoi s'agit-il exactement ?
Bonjour. En effet, je coordonne les montages donc pour les trois soirées de projection. Coordonner, c'est-à-dire qu'une fois que le comité artistique a effectué, que la sélection est vraiment définitive, du coup, on s'assure auprès de chaque photographe qu'on a bien tous les éléments pour effectuer leur montage et pour certaines photographes, savoir et s'assurer qu'au-delà de la volonté de le faire elles-mêmes ou eux-mêmes, que ça puisse être fait avec le bon format, etc. Et puis ensuite, on a une équipe de 5 monteurs, Christophe, Thibault, Vladimir, Lucas qui nous a rejoint cette année et moi-même.
Et vous-même.
Donc voilà, je ne suis pas seul à effectuer les montages. En général, on en fait à peu près 2/3. Donc ce qu'on propose aux photographes, c'est de nous livrer leurs images dans l'ordre, avec le titre de la série, éventuellement pour inspiration une musique ou un son, voilà. Et puis à partir de là, on a le champ libre et du coup, ça permet de poser un deuxième regard sur un projet photographique. Et c'est tout l'intérêt du son et des projections à l'image fixe. Alors, nous, on ne parle pas de films. À un moment donné, on s'était posé la question, est-ce que c'est des films photographiques ? Et en fait, non. Pierre Vert a son propre format, qui est vraiment au plus simple, de l'image fixe, en montage cut. L'idée, c'est la photographie.
Donc,
c'est c'est pas vraiment dans les effets de montage et tout. On le fait sur demande des photographes, ou en général, les photographes le feront eux-mêmes, parce que c'est très, très, très chronophage, parce que tout est possible. Donc nous, on se limite vraiment à l'idée de ces sons, de ces compositions originales de temps en temps. C'est de créer un écrin et d'ouvrir la proposition photographique à encore un plus large public. Parce que si on est mené par une voix, si on est mené un peu par une musique, je trouve que ça facilite l'accès à la photographie.
Ça représente une certaine magie aussi de voir ces photos de nuit dans un espace naturel magnifique. Vous vouliez ajouter quelque chose, Stéphane ?
Oui, on a été précurseurs sur ce format. Je me rappelle, tu te rappelles, François-Xavier, au début, on nous a dit, mais qu'est-ce que c'est ? Vous mettez du son sur les photos, tout ça, ça ne va pas marcher. Et finalement...
dès la deuxième année, on a éprouvé, alors peut-être de manière un peu radicale, mais on était tout jeunes. Pourquoi radical ? Parce qu'on avait pris des décisions vraiment de poser un regard sur chaque projet. On était une équipe de 2. On y a passé des nuits, nos journées, nos nuits, afin que ça puisse être projeté. Et on était allé trop loin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on l'avait fait tout seul, dans notre coin, sans lien avec les photographes, parce qu'on n'avait pas le temps de le faire. On a fait sur place en 3 jours. Il y avait 50 dossiers.
Ils avaient le final cut quand même. Ils avaient le droit de dire, ah ben non, je ne veux pas que ça soit projeté de cette façon.
Il n'y avait pas de temps. Certains nous l'ont dit après. Et ça a créé des... En fait, tout de suite, ça a posé la discussion. Et notamment, je me rappelle d'échanges, mais ultra intéressants autour de ça, avec Peter Knapp, qui était là. C'était la deuxième année. Hein, et du coup, on a tout de suite échangé avec lui en me disant, c'est super ce travail que vous faites autour du son pour la photographie. Mais attention à ne pas être trop cinématographique, c'est-à-dire à ne pas en raconter plus que ce que l'image et ce que le photographe ou la photographe veut nous dire. Donc il ne faut jamais prendre le dessus sur la photo, sinon on crée un écran et alors là on coupe l'accès à vos photos directement.
Et la plupart du temps pour ces montages, il s'agit de rétrospectives d'une œuvre ou d'un projet particulier réalisé par l'artiste ?
Ça dépend. En général, les gens qui concourent, on va dire, pour les prix, c'est vraiment plutôt un projet en particulier. Et après, les photographes invités, ça peut être comme Hans, on va se concentrer, Hans Sylvester, on va se concentrer sur une série et on va en faire un editing. Par exemple, François-Xavier, on nous livre 100 photos, Hans nous livre 100 photos, et François-Xavier fait un editing des photos, il les met dans l'ordre. Et ensuite, on pose une musique dessus, mais c'est des projets à part parce qu'il faut quand même qu'il y ait un certain entrain musical. Il faut que ce soit dynamique parce que l'idée, c'est de rendre hommage et puis de démarrer joyeusement.
Combien de temps durent ces projections en général, si ça, j'imagine. Alors, que ce n'est pas identique à chaque fois.
Mais... Non, ce n'est pas identique, mais on projette entre 15 et 20 projets de 3 à 4 minutes. Ah. Chaque projet, c'est vraiment un format assez idéal. C'est assez court et en même temps, ça permet d'avoir le temps de poser son regard sur 30, 35 photos.
Nous, notre principe de base avec ce qu'on s'était donné avec Stéphane, c'est d'être sur la palette de la photographie dans sa globalité et donc de toucher tous les divers thèmes qui peuvent exister dans la photographie. Et donc là, ce soir, ça sera aussi un mélange de genres qui sera présenté. Donc voilà, il peut y avoir du reportage, comme il peut y avoir des choses autour de la littérature. C'est assez
vaste. Même s'il y a un point de vue d'auteur qui est privilégié, quand même.
Bien sûr.
Absolument, oui. Ça, c'est comme tu demandais tout à l'heure si les critères, c'était bah, les critères.
C'est le critère.
Une démarche de photographe.
Chaque année, il y a un thème qui a été développé. Il y a eu l'intelligence artificielle. Il y a eu la fast fashion cette année. Il s'agit du surtourisme, c'est ça ?
C'est ça, voilà. Quand on fait la sélection des photographes, il y a une thématique un peu comme ça qui se dégage. Et Marie...
Marie Corps,
donc, s'engage justement sous ce concept d'un thème qui sort comme ça. Et cette année, effectivement, ce qui est apparu, c'est la fast fashion ou bien la surpopulation. Parce qu'on a un autre projet aussi qui parle du gros, du plus, un travail en Chine. Voilà. Et donc là, cette année, il y a trois photographes qui ont été retenus pour ça, pour traiter cette dimension du surtourisme. Alors bien sûr, c'est une approche plutôt... c'est un point de vue, quoi, ce qui n'est pas le point de vue le plus large possible de ça, mais qui donne une idée, et après une manière aussi pour chaque photographe, comment il traite cette dimension-là.
D'ailleurs, j'en reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, lors de la sélection, est-ce que vous avez sélectionné tous les photographes autour de ce thème, ou c'est une partie des photographes, pas du tout ?
Non, quand on fait la sélection, on regarde absolument pas s'il y a des thèmes. On est dans la diversité, et ce qu'on regarde, c'est justement cette diversité, parce que c'est aussi notre idée, c'est de pouvoir mélanger les choses, et que dans la projection, il y a une organisation des projets qui a un rythme, qui ne soit pas toujours dans la même thématique, qui soit plus léger, plus compliqué, voilà.
Alors on parle de surtourisme, nous sommes dans la salle principale, la salle polyvalente de Pierre Vert, où se trouve une exposition avec des photos de Moland Fenkoff. Moland, bonjour.
Bonjour.
Alors le surtourisme, ça vous parle, hein, puisque votre exposition, je vous laisse la décrire, votre série de photos. Voilà. Elle s'intitule d'abord Navy
Metal. Donc il y a un petit jeu de mots.
La conjonction entre...
entre heavy metal et navy. Donc voilà, ça, je pense que le titre résume assez bien le sujet. Donc c'est une croisière thématique consacrée à un genre musical particulier, le heavy metal. Donc au lieu d'avoir des plaisanciers lambda, nous avons 3000 métalleux, 3000 personnes qui partagent la même passion.
Sur une ville flottante presque.
C'est un festival flottant parce que sur le bateau, vous avez 60 groupes qui jouent chacun deux fois. Donc vous avez 120 concerts en 5 jours. Et donc vous avez des concerts à 4h du matin, 5h du matin, à toute heure du jour et de la nuit sur 5 scènes. Dont la plus grande, qui est sur le pont supérieur. Il y a 15 ponts, donc c'est comme un immeuble de 15 étages, hein, le paquebot. Et la scène la plus grande, elle est en extérieur, elle a cette particularité d'être équipée de jacuzzi devant. Donc vous avez le public qui est en maillot de bain et qui assiste au concert. Et donc ça vous arrive très souvent de voir, durant des concerts, des gens dans le public qui font du crowdsurfing, ce qu'on appelle du crowdsurfing ou du slam. Donc on porte quelqu'un sur un bout de bras et on se le passe de personne à personne. Et ben les gens ils font ça, ils font du crowdsurfing mais en maillot de bain dans le jacuzzi. Voilà, donc c'est très cocasse, c'est très insolite. La croisière en elle-même propose tous les services classiques d'une croisière telle qu'on les connaît. Avec des buffets à volonté à toute heure du jour et de la nuit, on peut faire du golf.
De la bière peut-être.
Alors, les boissons sont payantes, tout est gratuit, enfin tout est inclus sauf les boissons. Donc je pense qu'ils se font leur beurre là-dessus, parce que le métalleux consomme beaucoup.
Oui, c'est peut-être ma question.
Voilà. Mais pour ainsi dire, pour autant, j'ai jamais vu personne tomber à l'eau.
Oui. Voilà, combien de temps dure cette croisière ?
Elle dure 5 jours.
Entre quelle ville et quelle ville ?
Alors le départ se fait à Miami, en Floride. On part 5 jours en mer des Caraïbes avec une escale de 8 heures. L'escale change d'une année à l'autre. Une année, ça va être la Jamaïque. Une autre année, ça va être une autre île. L'année où j'y suis allé, c'est on a fait une escale de 8 heures sur une île qui s'appelle Grande Turque. Donc pendant 8 heures, vous avez 3000 personnes habillées en noir, en maillot de bain noir, qui débarquent sur la plage. J'ai des images qui ne sont pas présentées dans l'exposition, mais j'ai des images de gens qui envahissent la plage avec une personne qui a une bouée en forme de licorne, mais la licorne, elle est noire. Voilà, tout est noir. Il y a plusieurs temps forts pendant ce séjour, enfin cette croisière, et l'un des temps forts, c'est quand même le concours de plats, donc le Belly Flop Contest.
Sur le ventre, donc.
Oui, pendant une heure, vous avez des gens qui se jettent dans l'eau et qui doivent générer la plus belle gerbe d'eau. Et en face, vous avez un jury composé de musiciens, donc les musiciens qui se produisent sur scène. Donc, ils se font éclabousser, eux, pendant une heure, et ils votent avec des petits panneaux numérotés de 1 à 10, hein, un peu comme au patinage artistique, le plus beau plat, voilà. Et il y a d'autres temps forts. Le dernier jour, tout le monde se déguise. Donc là, vous avez 3000 personnes déguisées, des T-Rex, des clowns, des Pikachu. Et donc, ils assistent au concert et ils font la fête.
C'est très bon enfant, visiblement.
C'est très bon enfant, c'est très convivial, c'est très, je dirais, what the fuck, comme on dit.
Un petit côté Spring Break aussi, on dirait.
Oui, ouais, mais sans le côté vulgaire du Spring Break, c'est très bon enfant. Je vous donne un exemple. Donc, il y a 15 ponts. Donc vous prenez l'ascenseur pour vous déplacer d'un pont à l'autre. Un plaisancier lambda va prendre l'ascenseur et il va se déplacer d'un pont à l'autre. Bon, maintenant vous avez des métalleux durant cette croisière, ils prennent l'ascenseur, ils font du crowdsurfing dans l'ascenseur. Voilà. Donc c'est impossible à prendre en photo hein, parce que c'est très exigu. Mais bon, j'ai assisté à cette scène, je me dis mais c'est incroyable, ils arrêtent jamais. Et bon, j'ai pas réussi à faire d'image parce que bon voilà, il y a pas de recul. Mais voilà, c'est ce genre de petites anecdotes. En tant que photographe, c'est très fatigant. Parce que moi, j'avais ma petite checklist d'images que je fantasmais. Bon, je m'étais renseigné, j'avais préparé le sujet, donc je savais à peu près quel genre d'images il me fallait absolument. Je savais qu'il me fallait des images de jacuzzi, je savais qu'il ne fallait pas que je me rate sur le concours de plat qui dure qu'une heure. Voilà, il y a des images comme ça que je voulais absolument.
Très colorées, hein, les images aussi, d'ailleurs.
Oui, oui, oui. Alors, c'est un parti pris. C'est un parti pris, le petit côté un peu acidulé du traitement... colorimétrique, oui, c'est j'aurais pu faire ça en noir et blanc, mais non, la couleur s'y prêtait bien, je trouvais, justement, le côté un peu vacances, un peu léger du sujet. C'est un sujet léger, c'est un sujet feel good. Moi, bon, après, éthiquement, on peut dire beaucoup de choses, parce que, bon, le bilan carbone du truc, il est catastrophique.
Mais ça rentre dans le surtourisme.
Oui, voilà, c'est ça. Après, je pense que c'est un sujet léger qui peut prêter quand même à réflexion sur d'autres sujets. Je laisse, justement, la porte ouverte aux spectateurs de pouvoir discuter ce genre de sujets qui sont annexes au sujet lui-même, au reportage lui-même. Pour autant, moi, je me contente juste de montrer différents aspects de cette croisière. Qu'est-ce qui se passe en 5 jours, les différents temps forts de cette croisière, voilà.
Nous en parlions hors plateau, vous souhaitez témoigner, en fait, vous ne souhaitez pas juger, vous parliez d'autres reportages que vous avez effectués aux États-Unis,
ouais,
notamment sur un stand de tir
alors
américain.
Alors c'était à Austin, au Texas, j'avais fait un sujet à l'occasion de la première élection européenne à laquelle se présentait Donald Trump. Avec une rédactrice, on voulait faire un sujet sur les États-Unis, mais on ne voulait pas couvrir les élections en elles-mêmes, mais on s'est dit, c'est l'occasion de parler des États-Unis et d'aborder un pan de la société des États-Unis. Et donc, je lui avais proposé un sujet sur le Texas, un sujet autour du port d'armes. Et elle a peaufiné le sujet en disant, on peut faire un sujet en fait sur des femmes. Et donc, on a approché un club de tir 100% féminin. Quand on a rencontré ces femmes, nous, on voulait des images en intérieur, pas que dans le stand de tir, pas que dans le club de tir. On voulait aller chez elles, on voulait qu'il y ait des membres de leur équipe, de leur club, qui nous montrent leur intimité et qui nous montrent, en fait, leur collection d'armes. Parce qu'en fait, une personne peut posséder 20 armes à feu chez elle. Donc, il fallait qu'on gagne leur confiance. Et donc, on leur expliquait que nous, on vient d'une autre culture, la France. On ne vient pas juger, on vient montrer. C'est notre démarche journalistique. On montre, on explique à un public qui ne connaît pas forcément comment ça se passe chez elle. Et voilà. Et nos opinions politiques, on les a gardées pour nous. On n'est pas dans une démarche militante.
Les images parlent d'elles-mêmes. Les images parlent d'elles-mêmes.
Les images parlent d'elles-mêmes, je pense, oui. Je vous donne un autre exemple. On avait fait avec la même rédactrice un sujet sur Phuket, qui est un peu le paradis des Lascars, ce qu'on appelle les Lascars, donc les petits jeunes de banlieue.
En Thaïlande ?
Ouais, en Thaïlande. En fait, les petits jeunes de banlieue, bon, bah, ils sont discriminés en France, ils ne peuvent pas rentrer en boîte de nuit. Eh ben, en Thaïlande, c'est la porte ouverte pour eux, ils ont un pouvoir d'achat, ils ne sont pas discriminés, ils peuvent faire la fête. Et donc, en fait, il y a cet effet de mode qui crée une espèce de communauté de Français issus de banlieues parisiennes, enfin de grandes villes françaises, et qui y vont mais 5-6 fois par an, et ça crée une petite communauté. On avait fait un sujet là-dessus, vous voyez, c'est très varié. Et pareil, on ne fait que montrer, on ne juge pas. Voilà.
Alors si l'on souhaite voir votre travail, vos expositions, où est-ce qu'on peut vous voir en dehors de Pierre Vert ?
Bah, sur les réseaux sociaux.
Alors on peut donner votre adresse ?
Tout à fait. Bah, en fait, vous googlez mon nom, Moland Fenkoff, et vous tombez que sur moi.
Alors Moland Fenkoff.
Exactement, voilà.
On en vient à notre partie américaine de notre plateau, Stéphane. Il y a une ville qui est très importante pour les nuits et pour vous-même, c'est Selma, aux États-Unis. Alors, quelle est cette ville et pourquoi cette ville ?
Selma se trouve en Alabama, dans les États-Unis du Sud. J'y suis allé une première fois avec mon meilleur ami de lycée, qui est malheureusement décédé aujourd'hui, Carl. Et j'étais à la recherche, j'ai fait un travail très particulier sur la ségrégation, avec un angle encore plus particulier, c'est-à-dire que je photographie les arbres qui ont servi aux pendaisons. Voilà. Donc ça m'a amené à Selma, et dans mes recherches, j'ai rencontré une dame qui s'appelle Joanne Bland. Et Joanne Bland m'a guidé dans les rues de Selma et aux alentours, puisque Joanne avait 11 ans quand elle a vécu ce qu'on appelle aussi de Bloody Sunday, puisqu'il y a un photographe ici qui traite sur ce qui s'est passé en Irlande, mais aux États-Unis aussi. Bloody Sunday, c'est la marche pour les droits civiques qui a été organisée plus ou moins par le Dr. King, mais au départ c'était surtout avec les locaux dont John Lewis faisait partie. J'ai eu la chance de rencontrer John Lewis. On lui a même dit avec Johan qu'on allait créer un festival photo à Selma. Il pensait que c'était une super idée, qu'elle allait nous aider. Malheureusement, John est mort d'un cancer 2 ans après. Voilà. Donc avec nous ce matin, on a deux photographes qui ont vécu le festival de Selma, Hector et Gus. Donc Gus, lui, Gus Bennett, il a été il y a 2 ans le prix du jury à Selma et l'année dernière le prix du public. Et Hector, qui est un ami qui lui est un photographe new-yorkais, qui lui vient de la République dominicaine, a eu le plaisir aussi de venir partager son travail à Selma. Et là, tous les deux sont ici parce qu'ils voulaient aussi connaître, évidemment, le prix du jury. C'était que Gus vienne ici à Pierre Vert. Et Hector, par curiosité, a financé son voyage et est avec nous aujourd'hui. Voilà.
On demandait de présenter leur travail, peut-être.
Would you like to introduce yourself?
My name is Hector Vallenilla, originally from the Dominican Republic and been living in New York for over 50 years.
Voilà, donc Hector est d'origine de la République dominicaine. Il habite à New York depuis 50 ans. Tell us about your work.
My work as a photographer has been as a paparazzi, which I did for over 20 years. Yeah, then I retired and started doing like street photography for fun on Instagram. I'm sorry.
Hector fait partie du côté obscur de la force. C'est un vrai paparazzi. Il a fait ça pendant how many years did you do that?
Over 20 years.
20 ans de paparazzi, c'est-à-dire que voilà, vous connaissez le principe des paparazzi. Et puis aujourd'hui, il est plutôt un peu à la retraite et il aborde des sujets de street photography, comme c'est très à la mode en ce moment, la street photography.
Photographe de rue.
Voilà. Et you remind us what you propose in Selma?
Selma was wonderful. Hey, you invited me to Selma and I appreciate that a lot. Ouais.
Il a apprécié d'être invité à Selma.
Project was from Samana in the Dominican Republic. It was a whole community in the Dominican Republic that came from the United States in the 1800s. African American free slaves that I went down to find and I found them. Yeah, that was
Donc il a proposé un travail à Selma sur des anciens esclaves qui sont venus s'installer en République dominicaine. Voilà, c'est ce qu'on a montré ici.
Et montrer son pays, enfin ce pays.
Son pays d'origine.
Son pays d'origine.
Voilà.
Et qu'est-ce qu'il en a à en dire maintenant?
What do you want to say about that?
It's more to present it to the Dominican people that it happened because it's there, but most people don't know how, you know, how it came about. And I would like to one day present it as a whatever, you know. As a,
C'était plus un témoignage pour faire sensibiliser les personnes en République dominicaine que ça existait et que c'est là. Voilà. C'était plutôt une sorte de témoignage.
Et qu'est-ce qu'on y voyait sur ces photos? Des gens, des paysages, des villes?
C'était plutôt des portraits. Des portraits des situations dans leur intimité, dans leur maison. Voilà.
Est-ce qu'on a un moyen de voir ces photos?
Oui, on peut voir ces photos. Alors, c'est pas projeté cette année. On va en parler avec François-Xavier. Mais si vous voulez rencontrer Hector, il est présent. Il sera là. You're staying until Sunday, Monday?
Here?
Yes.
Until forever.
Donc,
Pierre,
Hector vient d'emménager à Pierre-Verve.
I don't want to get deported, though.
Il y a des social media.
Yeah.
Would you like to say your social media?
Alors, vous pouvez retrouver social. Hector. What's your social media feed? What's your Instagram?
It's your Instagram. It's Hectachrome 800. Hectachrome with an A, no Hector.
Hectachrome 800.
800. Yeah.
800. Avec un H. Sans transition, on passe avec notre ami Gus Bennett. Gus qui est donc le prix du jury et le prix du public à Selma, qui est avec nous. Gus vient de Louisiane. Donc, Gus, can you introduce yourself, please?
So my name is Gus Bennett. I'm from Louisiana. I've been working in Louisiana as a documentary photographer for about 46 years now. I worked as
Gus a travaillé donc principalement dans les documentaires
en Louisiane.
En Louisiane.
My career started in public relations. I was also a musician for years, so my transition from music to photography was easy because I would always bring a camera to a performance and then I would photograph afterwards.
Gus a commencé comme musicien et puis la transition a été plutôt facile ou agréable pour lui puisqu'il avait toujours un appareil photo avec lui.
And I was always interested in identity, capturing the essence of a person in front of my camera.
Il a toujours été intéressé de prendre et de capturer l'essence des personnes devant son appareil photo.
And I never tried to impose my will, because that's easy sometimes. I wanted people to show me who they wanted me to see, not who I wanted to show up.
Il a toujours voulu montrer en fait ce que les gens représentaient, mais pas ce que lui voulait montrer aux gens.
Quel est votre instrument?
The music instrument.
I was a drummer.
A drummer.
I played
yes.
drums for years, so it actually helped me with my timing with photography
oui,
as well.
C'était un batteur.
C'est un batteur. Quel était le travail qui a été exposé, qui a occasionné ce prix du jury?
Oh yeah, Gus, the first year you came to Selma, remind us, what did you show as your photography work? I remember you were taking pictures of funerals and...
So the first time I showed in Selma, the series was called Tell My Feet I Made at Home. It was a project that I developed out of my experience from Hurricane Katrina.
La première exposition qu'il a fait, donc ça s'appelait Tell My Feet.
Dis à mes pieds que je suis rentré à la maison.
Dis à mes pieds que je suis rentré à la maison.
The project was my way of documenting my travels. I was shooting pictures for FEMA, and I was expecting my first child, my son, and I did not want to show him negative photos, so I photographed my feet the entire journey.
Il devenait papa. Donc en fait, il voulait montrer à son enfant et aux personnes qu'en fait, depuis la hauteur, il pouvait montrer ses pieds.
Il voulait montrer une image positive.
Une image positive, voilà, de ses pieds.
And it was just simply about photographing my movement, my progress, and telling a narrative with each photo. It later developed into the larger project, Tell My Feet I Made at Home.
Il a voulu vraiment montrer aux personnes le procédé qu'il a fait pour dans cette, cette expérience. Et puis, vraiment...
Qui rentrait à la maison. Désolé, on n'est pas interprète, donc on essaie de faire de mieux.
Stéphane, le jury qui décerne le prix à Selma, c'est un jury qui se trouve ici ou à Selma?
C'est un jury qui se trouve à Selma. Selma, on a du financement, des financements privés, contrairement à, ici à Pierre Vert. Mais le jury est composé de photographes. On a eu un réalisateur, on a eu deux réalisateurs, un ami de Los Angeles, un jeune réalisateur qui est aujourd'hui présent ici à Pierre Vert. Malheureusement, il n'est pas avec nous ce matin, mais aussi un réalisateur de vidéo, de musique vidéo, qui avait fait les cinq dernières vidéos de Tupac. Voilà. Donc on a aussi des personnes très intéressantes à Selma. Donc j'invite tout le monde à venir à Selma. D'ailleurs, on en parlera avec Pétard qui est ici, hein, qui est venu proposer son travail et qui revient ici en tant que membre du jury. Vous voyez, ça fait vraiment un pont.
Un échange.
Un pont. Et à Selma, il y a un pont, hein, puisque c'est le fameux pont de Edmund Pettus Bridge, voilà, qui est... nommé après un des fondateurs du Ku Klux Klan, il faut quand même le savoir aussi.
Gus a un site ou quelque chose où on puisse voir son travail.
What's your Instagram and your social media feed so we can see your work?
My Instagram social media is Gus Bennett Photo, Photo, and that's my email. Pick the domain and just add Gus Bennett Photo. Okay. Email, AOL, Yahoo, Google, it doesn't matter. It's Gus Bennett Photo.
Gus Bennett Photo. C'est aussi son Instagram et son site internet.
Thank you guys very much for being here.
Thanks a lot for being here.
Thank you for your time.
Appreciate it.
Where's the wine?
I think you could find it in the kitchen, I guess.
Troisième partie, troisième plateau. J'ai le plaisir de recevoir Petar Mitrovic. Et Marie Corr, qui est commissaire des expositions. Bonjour Marie.
Bonjour.
Alors je pense que vous devez être soulagée d'en arriver au milieu des nuits, parce que ça représente un travail énorme, j'imagine.
Oui, tout à fait. Nous, on est arrivé déjà même depuis samedi. Aujourd'hui, cette année, on travaille sur les expositions avec deux jours supplémentaires pour combler un petit problème de scénographie lié à un problème de stockage. Mais en tout cas, on s'en est très bien sorti grâce à tous les bénévoles qui étaient avec nous. Voilà, on a des très belles expos qui ont été montées en temps et en heure. Pas de stress, donc tout va bien.
Un festival, on peut le rappeler tout de même, qui n'existerait pas sans les bénévoles.
Exactement, sans eux. On a toute une équipe de petites fourmis qui, en plus, d'année en année, reviennent. Donc ils prennent tous... Ils prennent tous leur place, ils n'ont presque plus besoin de moi en fait pour monter les expos.
Bon. Stéphane ?
Non, on a vraiment besoin de toi Marie, et je voudrais dire que remercier encore une fois l'équipe qui vient de l'extérieur de Pierre Vert, parce qu'ils sont tous venus en avance, 3 jours en avance cette année, parce que j'ai la chance d'exposer à l'écomusée
de l'Olivier,
hein. Qui est à Volx, un bâtiment qui appartient à Monsieur Bossan, qui est géré par Sophie Ballas, donc j'ai la chance d'exposer là-bas. Je recommence, c'est en ce moment et ça dure, l'exposition dure un bon moment.
Il faut quand même dire, Stéphane, excusez-moi de vous couper, ce sont des photos que vous avez prises des gens qui ont travaillé...
Exactement, en voyant le bâtiment, on m'avait proposé éventuellement d'exposer mes photos de New York, mais je pensais que ça faisait sens de créer un studio dans le bâtiment et de photographier les personnes qui avaient travaillé. Donc l'équipe est venu en avance. Donc ça, alors au départ c'était justement pour se relaxer et pour profiter de ça, mais finalement ça a amené du boulot supplémentaire à tout le monde, parce que dans la foulée on a enchaîné avec Fort Calquier. On avait vraiment une main tendue par la mairie de Fort Calquier, par monsieur le maire David Géant, qui nous a proposé de faire une présentation des nuits photographiques au couvent des Cordeliers avec une très belle conférence de Hans Sylvester. Et la projection, on a projeté 22 sujets, donc 22 photographes qui étaient venus à Pierre Vert, une magnifique projection. Et évidemment, y avait un petit peu des quelques petits soucis techniques. Et là, évidemment, l'équipe des nuits est intervenue et ça leur a donné vraiment du boulot supplémentaire. Donc encore une fois, merci, merci Marie. Et surtout, là, elle ne le dira pas, mais nous... on est passé vraiment à un stade supérieur grâce à Marie, grâce à son expertise, son métier de scénographe. Et c'est vraiment là, on est vraiment monté en qualité à partir du moment où elle a été là.
On parle de ces jours-ci, mais votre travail, Marie, commence en février, non? C'est ça? Chaque année à peu près, non?
Oui, oui, on ouvre un appel à projet en fin d'année, donc vers le mois de décembre, fin novembre, début décembre. Et on ferme l'appel à projet en février-mars.
Avec 25 artistes revenus, c'est ça?
Avec 25 artistes revenus. Alors, cette année, je crois que c'était, si je me souviens bien, c'est 288 projets qui nous ont été proposés. Avec énormément, énormément de projets, de très, très beaux projets, de qualité, très variés. Beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes femmes qui nous ont proposé aussi des projets très aboutis. Donc ça a été un plaisir d'accéder à tous ces travaux et un drame total de n'en sélectionner que 25.
C'est un crève-cœur dans l'essai, oui.
Bien sûr, non, ça a été très difficile, mais voilà, on fonctionne bien dans l'équipe du comité artistique. On arrive à trouver maintenant un rythme et des techniques de travail qui nous ont permis en tout cas de faire ça de manière efficace.
Une fois que les artistes sont choisis, quel est votre travail ?
Une fois que les artistes sont choisis, moi, je commence à regarder un petit peu s'il n'y a pas un fil qui se tire entre certains, puisqu'en fait, je fais une expo collective tous les ans dans la salle polyvalente. Et en fonction des projets qui me sont proposés et de mon domaine de recherche dans le commissariat d'expo, j'essaye de voir s'il n'y a pas des projets qui peuvent aller ensemble, en tout cas s'il n'y a pas un endroit où tout ça se rencontre, et quitte à inviter un ou une photographe supplémentaire. Là, c'est le cas de Natacha Demaillieu dans l'exposition sur le surtourisme, qui est une artiste belge et qui malheureusement n'a pas pu venir, mais qui a accepté de nous prêter ses photos pour venir compléter cette série sur le tourisme, on va dire, puisque je pense que la série de Moland Fenkoff, il vous en a parlé tout à l'heure, n'est pas forcément sur le surtourisme, mais plutôt une autre manière de consommer le tourisme.
Quand les artistes proposent leur candidature, est-ce qu'ils proposent leur œuvre, est-ce qu'ils proposent un projet? Qu'est-ce qu'ils vous font parvenir?
Alors ça dépend, on peut avoir des projets, des montages photos déjà tout faits, des films photographiques, alors c'est toujours un peu délicat de différencier les deux. Et sinon, on peut avoir aussi juste des séries photos avec un texte et voilà. Des gens qui nous disent « faites-en ce que vous voulez ».
Et après, vient l'heure des choix, vous choisissez des tirages, vous choisissez un angle de vue
Alors, pour les expositions, je sais qu'on a ici des lieux d'exposition qui sont très chargés en histoire et esthétiquement aussi. Donc, j'essaye de trouver des projets aussi dans les sélections. C'est même pas que une fois qu'on a fait la sélection, elle se fait aussi un petit peu en parallèle, parce que tout se fait un peu en même temps. De trouver en tout cas des projets qui se rencontrent en fait avec ces lieux. Là, il y a le vernissage d'Émilie Autier ce soir à la chapelle de Régus, donc qui est une toute petite chapelle très intime, très mignonne, et avec son projet, son très joli projet, donc Lucie et les ovnis, donc sur une vieille femme qui aurait habité du coup la maison qu'elle habite aujourd'hui et qui aurait vu des ovnis, donc avec des barreaux aux fenêtres. Enfin, du coup, je pense que c'est des histoires comme ça, je pense, qui se rencontrent bien dans ces lieux-là. Et je sais que depuis hier, l'ouverture des expositions, beaucoup de gens sont venus me dire que voilà, ça marchait en fait, ce lien entre les projets proposés et les lieux. Du coup, il y avait une rencontre qui fonctionnait bien, donc je suis très contente.
Parmi les artistes présents, Petar Mitrović, quel est votre travail?
Moi, je suis plus surtout amoureux des gens et de leur histoire. J'abrège toujours en fait un peu mon passif, parce que c'est très important, c'est ce qu'ils disent, ce que je peux aujourd'hui. Je viens d'un pays qui n'existe plus, qui s'appelait dans le temps la Yougoslavie, une guerre que j'ai vécue, et ce qui fait que j'ai perdu un peu complètement cette identité. Donc j'ai dû réapprendre à faire confiance aux humains, et je l'ai fait à travers la photo. Et j'ai trouvé important de donner la parole aux gens, à ma manière. Un de mes tout premiers projets photo, que je vais d'ailleurs faire ici à Pierre-Bert, s'appelle One Word for the World, c'est en fait un mot pour le monde. On inscrit, je pose la question en personne, que je photographie en portrait. Si, il faut imaginer, c'est très utopique, mais vous imaginez que pendant quelques secondes de votre temps, vous avez la Terre entière, les 8 milliards et demi, je crois qu'on est 8 milliards et demi, qui vous écoutent. Pendant quelques secondes, vous avez juste le temps de leur donner un mot, ce serait lequel. Le mot, on l'inscrit sur le front de la personne, on tire le portrait, et ensuite la personne a le loisir d'expliquer en texte pourquoi elle a choisi ce mot-là. Ça, c'est un projet qui m'a fait traverser le monde depuis mes 12-13 ans. J'ai gagné des prix avec chez moi en Suisse, ça a été très médiatisé, je suis allé en Corée du Nord avec. Enfin bref, je vais dans les endroits où les populations leur tendent ni le micro, ni la caméra, si ce n'est que pour les juger. Et c'est un projet vraiment qui est fait contre les jugements. Je peux vous juger en quelques secondes simplement sur une apparence physique sans vous connaître. Et c'est justement pour essayer de briser ces barrières-là.
Vous êtes jeune, je pense que la guerre de Yougoslavie, vous deviez être très jeune.
J'avais 11 ans.
11 ans. Et vous l'avez ressenti comment ?
C'est compliqué parce qu'à 11 ans, on n'a pas la même notion des choses et puis la compréhension qu'en maintenant à 45.
Bien sûr.
À 11 ans, on n'a pas cette notion de tout ce qui est religion, tout ce qui est politique. Pour nous, ce sont des humains qui se tapent dessus et on ne comprend pas pourquoi. Je vous dirais qu'aujourd'hui, à 45 ans, je ne comprends toujours pas parce qu'on est... Je n'ai causé avec mon père. En fait, il faut vous imaginer que vous travaillez pour un pays. Mon père était officier d'armée, pilote de chasse, et il est rentré par amour pour ses avions, en fait, pour piloter des MiG et des Sukhoi. Voilà, ça, c'était son truc à lui. Quand il fallait larguer des bombes, il n'y voyait pas son intérêt là-dedans, donc on est parti. Mais il m'a expliqué, en gros, vous imaginez que vous levez le matin, comme vous faites en ce moment en France, et vous travaillez pour un pays. Vous économisez de l'argent, vous construisez une vie. Du jour au lendemain, vous dites, bah, écoutez, votre pays n'existe plus, votre passeport, ça devient décoratif, et la monnaie que vous avez mis de côté, bah, vous pouvez en faire des papiers brouillons. Ça s'arrête à ça. Il faut tout recommencer à zéro. La Yougoslavie est très complexe, dans le sens qu'on parle presque quasiment tous la même langue. Serbie, Bosnie, Croatie, Monténégro, c'est la même langue. C'est la France du Nord et du Sud. C'est une question d'accent. Et ces gens-là se sont foutus sur la gueule. Et ils sont devenus des pays à part entière. Historiquement, on a eu Tito, qui a eu un pays, qui avait une armée qu'on appelait les partisans. Les partisans, on a repoussé Adolf Hitler, Mussolini. Mais il y avait un détachement de ces partisans croates et serbes qui se sont détachés, qui se sont associés aux fascistes et aux nazis, et retournés contre leur propre peuple. Ils ont un drapeau, ces gens-là. Ces drapeaux-là, des éléments étaient repris aujourd'hui dans les drapeaux officiels de la Serbie et de la Croatie. Si je vous ressors la croix gammée, je mets 2-3 roses autour et je vous dis c'est joli, on reprend le même drapeau, vous aurez un peu de peine parce que vous avez grandi en disant la croix gammée, c'est quand même un drapeau qui représente quelque chose qui est négatif. Donc aujourd'hui, des yougos nostalgiques dont je fais partie, on a beaucoup de peine à s'associer d'un côté ou de l'autre parce que pour nous, c'est pas ça le drapeau, c'est pas ça l'histoire parce que ça a été en fait l'histoire des gens qui ont massacré leur propre peuple. Donc je l'ai vécu un peu comme une trahison, pour vous dire la vérité, je suis allé qu'une seule fois en 35 ans chez moi.
Depuis
mes 11 ans. C'était l'année passée. Ça fait partie de ces peurs irrationnelles, vous en avez tous, hein. Quand on regarde pas le JD, on a peur que quelqu'un nous regarde de l'autre côté ou être enterré vivant. Pour ma part, c'est de retourner chez moi et que le jour où je retourne, la guerre recommence. J'arrive pas à l'expliquer,
c'est
mais
presque une superstition.
C'est une espèce de superstition parce qu'une fois que vous la voyez, c'est quelque chose d'assez particulier, ça marque.
Donc est-ce que votre travail photographique vous répare ?
Oui. Oui, clairement, parce que ça m'a appris à refaire confiance aux gens. Le carré que je mets en face de moi lorsque je photographie quelqu'un, c'est le carré où je laisse tomber toutes mes barrières. C'est pendant cette heure de photo, de shoot, je vais faire en sorte de vous trouver beau. Vous me mettez devant moi Adolf Hitler, ça, c'est peut-être un peu choquant, mais pendant cette heure-là, je vais essayer de chercher quelque chose de positif chez ce monsieur-là. Ça, c'est mon travail à moi, c'est de trouver quelque chose de bien chez chacun. On est tous en photogénique, parce que quand les gens rentrent au studio, ils nous disent tous, bah, moi, je suis pas photogénique, je donne mal en photo, c'est faux. Il faut savoir juste parler avec les gens et les laisser parler, leur laisser donner leur histoire et c'est là où l'authenticité ressort.
Trouver l'âme de quelqu'un.
Exact.
Enfin une partie, disons.
Une partie.
Stéphane, qu'est-ce qui a fait que vous ayez sélectionné Pétard ?
Pétard et moi, on doit être, on doit faire partie des deux plus grands photographes. Physiquement parlant, hein. je me prétends pas un grand photographe. Au-dessus d'1m90, on est grand photographe au Festival de Cannes. Donc on s'est un petit peu trouvé comme ça, voilà, deux grands machins qui se baladent. Et puis on a commencé à parler. Et j'ai trouvé Pétard fortement sympathique. Et je lui ai proposé, évidemment, de venir à Pierre Vert déjà, ça s'est pas fait directement, mais il est d'abord allé à Selma, donc ce qui était génial, puisqu'à Selma, il a pu continuer son travail One World. Ça a mis un petit peu du baume au cœur à tout le monde. Où Selma, rien n'est réglé à Selma, hein. On s'est encore très ségrégué.
C'est pas si vieux.
C'est pas si vieux, et surtout, que ce soit les blancs ou les noirs à Selma, disent la même chose, on se connaît, on travaille ensemble dans la journée, mais on n'avait pas de projet ensemble. Et c'est le festival de Selma, c'est ça, c'est un projet où les blancs et les noirs travaillent ensemble. Et c'est fragile, mais ça existe.
C'est la grande différence avec l'Europe tout de même.
Voilà.
Il y a vraiment deux mondes parallèles presque, non ?
Quand tu vas à l'église, Johan Blind est noir, je vais dans son église le week-end, je suis le seul blanc, hein, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Mais le festival existe, encore une fois, et c'est fragile. Et évidemment, un ami comme Pétard qui vient, ça consolide ce projet parce que vous l'avez entendu, il a un discours, il a un humanisme, il est ouvert, et il est super gentil, quoi. Il est là juste pour partager sa photographie. Et je suis très content de l'avoir ici, à Pierre Vert. Il a accepté de faire partie du jury et il va... On va organiser aussi qu'ils puissent faire quelques portraits pour alimenter One World. Voilà.
Je m'en réjouis.
Pétard, vous faites partie du jury donc,
oui,
de cette année.
Oui.
Alors comment vous ressentez ce rôle ?
Il va être compliqué. J'ai vu la première série hier. Les images, je vais les revoir sans la musique et sans les textes pour ne pas être influencé. C'est compliqué de juger en fait le travail artistique de quelqu'un parce qu'on dit toujours c'est une question de goût et de couleur. Mm-hmm. On est touché par certaines choses plus que d'autres et puis on essaie de le faire aussi humblement que possible parce que j'ai été aussi dans des concours photos. Pour la petite histoire, je me suis une fois maintenant tout premier concours photo et je vois c'est Steve McCurry qui est la tête du jury. Il fallait payer 80 euros pour 10 photos. Et je me dis ah, chouette, un petit... une critique de Steve McCurry. Une photo a gagné ce concours, le coup de cœur de Steve McCurry. Fin de la critique. J'étais presque frustré parce que j'ai pas eu ma critique constructive. Donc, c'est ce que je me suis dit. On va essayer d'être aussi constructif que possible. Mais c'est compliqué. C'est quand même une tâche sur les épaules qui a son poids. Donc, je vais essayer d'être à la hauteur. Puis, je suis pas tout seul. On est 5. Donc,
ouais, et puis on a les caves qui nous aident aussi.
Oui, voilà, exactement.
On est sponsorisé par toutes les caves du coin. Donc,
c'est génial. Je me réjouis de découvrir les produits régionaux.
Pour ce qui concerne votre travail, Pétard, est-ce que vous continuez toujours sur ce thème du mot et de l'âme, si je puis dire, ou vous avez d'autres projets en cours ?
Alors, j'en ai d'autres en cours, mais celui-là, il est principal, ça fait plus de 10 ans. À la base, je voulais que ça dure 2 ans. Et puis, à force que ça s'agrandit, que des gens s'intéressent, des pays se grèvent, je pense que ça va être un projet d'une vie. Donc, celui-là continue encore. Chaque fois, je me rends dans un pays, dans une région où je ne suis jamais allé, bah, j'inclus des gens de cette région-là. Le but est de photographier la différence à travers le monde et de la montrer comme une richesse et non pas quelque chose qui devrait nous faire peur. Parce qu'en ce moment, paradoxalement, les réseaux sociaux sont là pour nous mettre tous ensemble, mais on a peur des uns des autres.
L'avantage de votre projet, en plus d'être très beau, je trouve, c'est qu'il est très simple, en fait. En même temps, il parle directement à tout le monde.
Oui, le but, c'était de mettre le mot proche du regard.
Et le mot, vous le mettez dans la langue, si vous avez quelqu'un qui parle l'arabe ou le chinois, ce sera des idéogrammes ou...
Ça sera écrit. Alors, si c'est des arabes, j'ai fait ce projet en Palestine, où j'ai inversé les écritures. Sur le front des personnes juives, j'écris en arabe. Sur le front des Palestiniens, j'écris en hébreu. Et là, j'ai eu quelqu'un à côté de moi qui l'écrivait pour moi, parce que dans notre langue à nous, c'est pas compliqué parce que j'ai une façon de centrer, mais quand c'est en arabe ou en chinois, c'est un peu... Mais bon, on se débrouille.
J'en finirai par une question, Pétard.
Oui.
Où est-ce qu'on peut voir votre travail sur le net, sur...
Alors, ce projet-là, vous pouvez le voir sur le site internet qui c'est www.one-world.org.
Stéphane, je pense qu'une nouvelle fois, une édition qui n'est pas terminée, puisque nous sommes vendredi, une édition dont vous êtes heureux ?
Une édition très heureux, parce que c'était une édition qui était compliquée au départ, on en a parlé
la dernière fois. Ouais.
Le bonheur d'avoir vraiment ces 5 anciens parrains de nous autoriser à utiliser leurs images pour produire des affiches collector ou encore l'image sur la cave coopérative. Compliqué, mais un vrai bonheur parce que tout le monde est ami du cœur et encore une fois, c'est une équipe. On est là. Il y a aucun membre de l'équipe qui est plus important qu'un autre. Je citerai parce que j'ai complètement oublié Jacqueline Bordas l'autre jour. J'ai complètement oublié de la citer dans une soirée qu'on fait chaque année. Les hébergements, c'est super important.
Parce oui, des que, familles d'accueil, on le rappelle
donc,
une nouvelle fois.
Personne n'est plus important qu'un autre dans notre équipe. Voilà.
Et puis nous l'avions dit lors de notre interview précédente, il y a une dizaine de jours. Cette année, vous remerciez plusieurs parrains, 4 parrains, 4 affiches.
Et 5, puisque Jean-Marie Perrier nous a autorisé à réutiliser la bâche qui est sur la cave coopérative de Pierre Vert, puisque c'était un ancien parrain. On a eu la chance hier soir d'avoir Jean-Daniel Lorieux sur scène et notre ami Hans Sylvester. Tous deux nous ont prêté des images. Malheureusement, Peter Knapp, qui est mon ami, mentor et qui a été le premier parrain, celui qui a créé le logo des Nuits Photographiques, il ne faut pas l'oublier, tout ça gratuitement, devait être là, il est souffrant. Et on espère avoir Bernard Plossu demain sur scène. Ce n'est pas gagné parce que Bernard... malheureusement, a perdu son épouse il y a quelque temps et il a du mal à sortir un petit peu. Voilà. Mais évidemment, on les apprécie, on les remercie.
Stéphane Kosman, merci beaucoup. Merci à Marie Corps.
Merci.
Merci à Peter Mitrovitch.
Merci à vous surtout d'être fidèle, parce qu'il faut le dire, Fréquence Mistral. Fidèle, vous êtes là chaque année et on vous remercie de partager avec nous la photographie. I said God.